20h01 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5, bienvenue dans Génération Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver, le collectif est au complet, le 5 majeur est de retour et donc on va pouvoir parler de sport ce soir. Vous savez, comme tous les 15 jours, il y a une émission avec un invité et ce soir c'est une émission un peu plus de débat, on va pouvoir plus se faire plaisir, rentrer un peu dans le vif du sujet. Dans certains sujets aussi également, et on va prendre le temps ce soir de faire cela. On va, tradition oblige, commencer par notre réalisateur de l'émission, Faustin. Comment vas-tu?
Salut Florian, salut tout le monde. Ça va très bien malgré une défaite pour moi ce week-end de 4 petits points, mais bon, c'est pas bon. On relèvera la tête ce week-end.
Le week-end prochain, on espère une victoire la semaine prochaine que tu nous annonceras forcément dans l'émission en ouverture, comme chaque semaine. Le retour, un retour dans l'émission, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu la chance de pouvoir communiquer avec lui. Comment vas-tu Cédric?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Les joies du travail, ouais. Plus de l'emménagement. C'est bien de déménager. Hein.
Ouais.
Mais c'est bien en fait de quand t'aménages la première fois. T'as pas de carton en fait, t'as tout à acheter, mais au moins c'est plus pratique. Hein.
C'est plus pratique. C'est le conseil de Cédric en tout cas de déménagement de ce soir. Est-ce que c'est pas une
émission...
C'est pas une émission uniquement de sport, en tout cas dans Génération Sport. À sa droite, un homme qui a trouvé un buteur, même deux buteurs, parce que t'avais annoncé Barcola, je crois, il semble.
Oui, c'est
donc
vrai.
Donc deux buteurs du match entre Paris et Angers.
Carrément.
Pas le bon score, malheureusement, pour le SCO.
Dommage pour nous, ouais.
Voilà. Mais bon, t'avais quand même vu les buteurs de ce match.
Ouais, exactement. Comment bonsoir Flo, bonsoir à tous. Bah oui, et je suis très content que Bioumla, malgré, on va pouvoir revenir un peu dessus, sa prestation limitée, ait marqué ce but. Moi, ça me fait très plaisir. Et puis au-delà de ça, Lyon a battu Saint-Etienne ce week-end, donc forcément, je suis un homme heureux, comblé de bonheur.
D'un petit écart
qui aurait pu être plus grand, mais on pourra y revenir également.
On y reviendra forcément aussi à un moment donné dans l'émission. Un homme un peu malheureux, parce que lui, il a commencé très mal le week-end. En tout cas, son club de cœur n'a pas forcément commencé de la plus belle des manières. En 45 minutes. Là, c'était, la messe était dite. Un peu comme 15 jours auparavant avec le classique. Les matchs à domicile pour Amaury et l'Olympique de Marseille sont un peu plus difficiles. Quoi.
Ouais, on va dire que c'est bien. Les matchs où on a vraiment du mal, souvent, sont le vendredi soir quand je suis à l'entraînement. Comme ça, je rentre, je suis fâché, mais au moins je vais dormir et puis on essaye de l'oublier un peu plus vite. Et sinon, le week-end s'est super bien passé. Victoire pour moi ce week-end. Et puis j'ai fini le week-end lundi par une super longue sortie vélo avec le petit frère qui a fait plaisir, bord de Loire, etc. C'était très sympa.
Et oui, on évoque toutes les disciplines et forcément, on insiste, les jeunes et les moins jeunes aussi, à aller faire du sport, à bouger et aussi à prendre son vélo parfois pour aussi se vider la tête et l'esprit. Amaury nous évoquera aussi forcément un petit point handball parce qu'il y a eu 2-3 infos concernant le hand et Issam Tej, mais on y reviendra dans quelques instants. On va commencer avec le basket et les infos locales, mais on aura aussi forcément aussi un point sur le Vendée Globe, sur du basket, sur la Ligue 1 avec Angers. Forcément face à ce match avec ce leader contre Paris, on va parler aussi du reste de la Ligue 1 dans cette émission. On va balayer énormément de sujets ce soir et ça, on va se faire plaisir. On va évoquer la NBA aussi avec toi Faustin à un moment donné, mais pas seulement, mais avec pour ton plus grand plaisir, exactement. Mais on va commencer avec du basket quand même, mais un peu plus local cette fois-ci, et on va se diriger avec toi directement Faustin sur le match de Cholet face à Limoges à l'extérieur.
Ouais, c'était un nouveau match de Betclic Elite pour les Choletais qui sortaient d'une victoire au préalable en Coupe d'Europe contre Anvers, et ils ont magnifiquement enchaîné à Limoges avec une victoire 75 à 69, et ils restent premiers de Betclic Elite. Un début comme on a rarement vu, ou en tout cas ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu.
On ne les arrête plus.
Ça depuis à Cholet, on les arrête plus, c'est magnifique, j'ai pas les mots pour voir ça, cette équipe qui où il y a eu pas mal de changements mine de rien, déjà de coach et même dans l'effectif, et qui arrive très bien, c'est super, j'adore les suivre.
Et puis on sent que c'est pas forcément une envie de jouer le titre pour eux.
Non.
C'est vraiment du plaisir de jouer, de prendre ce qu'il y a à prendre, et puis après ils iront le plus loin possible s'ils doivent y aller, mais on sent que c'est pas forcément en plus une ambition qui est démesurée et qui vont se mettre la pression. Mmh. Donc pour l'instant, on va voir.
On connaît Cholet ces dernières années, à chaque fois ils nous font une demi-saison bien, l'autre mauvaise. Ouais. Ça dépend, chaque année ça change, la première est bien, la deuxième mauvaise, l'année dernière c'était l'inverse. Mmh. Donc bon, on espère pas cette année, on espère qu'ils vont réussir à concrétiser sur les deux phases de saison.
Ouais.
Ça a l'air bien parti.
Ça a l'air bien parti. Pour une équipe pour laquelle c'est moins bien parti, et là on parle de demi de saison un peu compliqué pour l'instant, c'est l'EAB avec une défaite à domicile.
Ouais, défaite 83-77 contre Lorient. Avant ça, ils avaient gagné, c'était mardi dernier pendant l'émission, 86-62 face à Poissy, un rival pour le maintien maintenant, on peut le dire, parce que les Angevins sont avant-dernier, en TP 8e, si je peux me permettre.
Tu peux te permettre.
Ça rapporte combien de points au Scrabble?
C'est pas ça, il faudrait qu'on regarde. Immensément, ouais.
Mais oui, du coup, ils sont avant-dernier et c'est très compliqué pour eux. Ils ont gagné que trois matchs depuis le début de saison, deux matchs même seulement. Trois matchs.
Ouais.
Mais ouais, c'est hyper compliqué. Je m'attendais pas à avoir un niveau de jeu aussi faible, sachant qu'ils descendent de Pro B, sachant qu'ils avaient eu une proposition pour rester en Pro B avec un maintien financier, qu'ils ont refusé, qu'ils ont bien fait de refuser, parce que ça se serait mal passé sinon. Donc je suis vraiment déçu de la performance de l'EAB sur ce début de saison, mais on sait jamais, ils peuvent se reprendre et réussir à s'en sortir.
On verra. On espère en tout cas pour eux, parce que c'est vrai que ça reste un club qu'on suit et qu'on a suivi pendant des années ici dans Génération Sport. Je parle sous le contrôle de notre cher mentor à tous.
Oui, bah ça fait partenaire pendant quelques années.
Ouais, voilà. Et donc du coup, bah les voir un peu mal en point, c'est vrai que ça fait.
Après, faut pas oublier que dans où ils sont, c'est toujours difficile de bien faire ses saisons. Enfin, on sait que c'est un petit peu l'antichambre du basket élite. Et mine de rien, je pense qu'en termes de dalles, il y a peut-être beaucoup plus de dalleux dans cette partie-là que finalement au-dessus. Une fois que tu arrives à conserver ta place, ça reste quand même, on va dire, à part 2-3 clubs qui vont faire le yo-yo, généralement, ça va être les mêmes pendant des années.
C'est vrai.
Dans une autre discipline, une équipe qui est, elle, restée en seconde division et qui a fait le choix de rester en seconde division, elle avait le choix, hein, elle aurait pu aussi descendre... Mais elle s'est battue pour rester. C'est le SCO Handball. Alors pas de match ce week-end, mais l'information est arrivée. Il me semble vendredi soir. Tu nous avais envoyé un message vendredi ou samedi.
Ouais. Vendredi soir, on a appris que Issam Tej, donc l'entraîneur du SCO Handball depuis maintenant quelques années, j'ai même plus le chiffre en tête, était limogé après avoir été pourtant prolongé cet été pour trois saisons supplémentaires. Un choix qui avait fait parler. mais qui avait été acté, un début de saison compliqué et puis ce licenciement qui arrive pour cause de résultats mais aussi peut-être des tensions en interne entre différents membres du staff, etc. On a quelques infos, on peut pas non plus tout dévoiler, voilà. En tout cas, maintenant il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, car pour l'instant celui qui assure l'intérim, j'ai non plus son nom.
Il n'a pas forcément les diplômes
pour entraîner à ce niveau-là. Donc il va falloir trouver quelqu'un parce que ils ont deux mois pour trouver. Et puis
est-ce que les deux mois, pourquoi s'il y a passé deux mois, c'est
comme par exemple on avait vu au football avec Reims et tout, c'est question d'amende si on n'a pas les diplômes. Et je suis pas sûr que le SCO puisse se permettre non plus de prendre trop d'amendes à ce niveau-là, déjà que sportivement ça va pas au mieux avec toujours aucune victoire dans le championnat.
Ouais. Une seule victoire en Coupe de France, on le rappelle.
Ouais.
Contre Ivry.
Belle victoire en plus. C'est début de saison qui avait été
un peu tronqueur en fait, et tronqué du coup.
Ça a annoncé plein de bonnes choses et finalement, maintenant on va espérer que ça fasse un électrochoc. Moi j'ai entendu dire que les joueurs étaient peut-être un peu bridés aussi par Issam Tej, qui voulait un système de jeu auquel ils adhéraient pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir se libérer et montrer plein de belles choses, en tout cas bien mieux que ce qui était proposé depuis le début de saison.
Oh, ben on verra ça très rapidement lors des matchs au Hara ou à l'extérieur pour le score en balle. En roller hockey, Angers Villeneuve, on les avait reçus la semaine dernière, les Hawks d'Angers se sont inclinés à domicile, malheureusement.
Ouais, c'était assez prévisible, je pense, de ce que vous avez dit.
Ouais.
Exactement, vaincu en plus, donc c'est dommage de l'apprendre, mais on n'est pas non plus étonné.
On n'est pas non plus étonné, il l'avait un peu dit aussi un peu en amont.
C'est ça.
Une défaite un peu, quand même un peu cinglante, 6-1 pour Villeneuve. Mais bon, c'est pas très très grave. L'objectif n'est pas non plus de... Voilà, ils vont essayer de se rattraper forcément lors des prochains matchs.
Et puis ils l'ont dit, l'objectif c'est le milieu de tableau aussi. Oui. Actuellement ils sont troisième, c'est leur deuxième défaite face à deux belles équipes. Quand
exactement.
Même.
Ouais.
Donc il faut souligner, c'est quand même pas un mauvais début de saison.
C'est pas un mauvais début de saison, exactement. On les a reçus aussi en parlant de hockey sur gazon cette fois-ci avec le SCO qui s'est incliné à l'extérieur face au Stade Français 3-1. Là également, ils sont donc dans les places de relégation, nos amis du SCO hockey sur gazon. Mais on sent qu'ils en ont encore sous le pied. Ils ont fait un beau match contre le Stade Français, qui est quand même une très belle équipe de cette première division. Donc on va voir pour eux comment ça va se passer sur la suite de la saison. En rugby, deuxième défaite de suite pour les rugbymen angevins, avec une défaite, je sais pas Cédric si tu en sais plus, contre le RC Saint-Sarrois. 19-14, c'est à l'extérieur cette fois-ci. Est-ce que tu en sais plus sur cette défaite du
score? Non, je t'avoue que ce week-end, j'étais un peu en mode off sur l'actualité locale, en tout cas pour la partie rugby.
Ouais.
Mais bon, on peut leur faire confiance. Hein,
exactement, ils avaient bien démarré la saison.
C'est ça, après, de suite. Ouais. Puis bon, on arrive quand même dans une période où le terrain est plus dur à jouer.
Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner aussi pour nos amis rugbyman. En volée, pas de match ce week-end pour les National 2, mais beaucoup de matchs pour les divisions inférieures, mais aussi pour les jeunes. Et pour en avoir parlé aussi avec un membre du bureau, ils espèrent pouvoir aller loin en Coupe de France jeunes, au moins jusqu'au cinquième tour, pour pouvoir après organiser les phases finales sur Angers, qui avait déjà été organisée par le passé en 2017, qui s'était joué à Jeanbrun notamment. Donc ils espèrent pouvoir organiser une phase finale cette année. Donc on les soutiendra en tout cas dans cet élan là et s'ils veulent en parler à l'avenir, ils seront forcément les bienvenus pour parler de cette phase finale au sein de Génération Sport. En foot, on va remonter un peu les divisions avec de la R3 avec la Vaillante qui s'est inclinée qui a battu 1-0 Mansuire. Saint-Sylvain en trame 4-2 pour Saint-Sylvain, le Foyer de Trélazé qui s'est imposé 5-4 contre Sablé. L'Intrépide qui a perdu 3-1 et Bushman qui s'est incliné aussi 2-1 en R3. En R2, Chalonne-Lassuse, 1-1, Muret-Rigné s'est imposé 2-1, la NDC a perdu 1-0, Brissac fait 2-2 contre Orvault, la deuxième équipe d'Orvault, Cheminé s'est incliné 5-1 face à Segré, Péloaille s'est imposé 1-0, ça c'est en R2, en R1, Beaucouzé s'est imposé 2-1 face à Changé. On remonte tout doucement aussi du côté de la N3 avec la deuxième équipe du SCO qui s'est inclinée 2-0 à l'extérieur contre Saint-Philbert. Saumur en N2 s'est incliné 3-1 à Blois. En U19, 1-1 entre Beaucouzé et Avranches et une défaite pour les jeunes en U19 pour les jeunes angevins 3-0 face à Nantes. On rappelle que ce week-end en U19, il y a le derby entre Angesco et Beaucouzé. Ce sera au stade de Salpinte. Il y a des chances même que ce soit dimanche vers 14h30, je crois. Non, c'est samedi à 14h30. Donc si vous voulez aller voir les futurs peut-être pépites du SCO, je te regarde Mathéo, parce que je sais que t'aimes ça.
Ouais, j'ai pas encore trop d'infos sur les U19 quand
mais
même.
Il y a de très très bons joueurs.
Mais il y a de super bons joueurs. Ouais. Je sais pas du tout s'il y a des joueurs qui font l'ascenseur avec le SCO.
Il y a des joueurs qui ont joué l'année dernière en Ligue 2. Ou qui ont eu des apparitions et qui maintenant jouent encore en U19 parce qu'ils sont redescendus un peu. Mais ça vaut le coup. Franchement, c'est un très très bon match.
Si ouais. On peut voir des Marius Courcoul par exemple.
Et ben, il est là.
Ouais,
il est là. Okay. Il y est.
Bah, intéressant. Ça okay. Pour le coup, parce que c'est quand même le futur du ouais. Côté d'Angers en défense centrale.
Et comme on a dit qu'il y avait un. Il joue plus haut là maintenant. Il joue plus haut, au milieu de terrain de mémoire. Donc, en U17, Angers s'est imposé 7-0 contre Avranches. Voilà. Chez les filles aussi. La Croix-Blanche se fait 2-2 contre Caen. Et on finit donc avec notre chère équipe élite. Et c'est là-dessus qu'on va se lancer sur le débat avant la pause musicale. Et bien c'est cette défaite du SCO, 4-2 face aux Parisiens, avec 4-0 déjà à la mi-temps. Faustin, quand t'as vu ça, est-ce que tu t'es dit ouf, vers quoi s'attendre en deuxième mi-temps?
J'ai coupé le match à la mi-temps. J'ai pas regardé la deuxième mi-temps. Je vais dire, j'ai peut-être un peu bien fait parce qu'il y avait que les 10 dernières minutes qui pouvaient être intéressantes. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté quand même de voir que c'était si facile de marquer, surtout. Autant en attaque, ça allait. Le SCO a réussi à se procurer des occasions en première mi-temps. Il y a eu des frappes, surtout des frappes lointaines quand même. Mais oui, il y a des trous. Je pense au deuxième but de Barcola où il met une tête. Il y a 3 joueurs parisiens oubliés dans la surface. C'est vraiment une faute énorme. Après, c'est Paris. Mettre deux buts à Paris, c'est génial. C'était plus arrivé depuis. J'ai vu la stade 1969, il me semble, quelque chose comme ça, ça pour le SCO. Donc ouais, ça fait plaisir. Le SCO qui continue de marquer, qui progresse. Enfin, perdre 4-2 à Paris après avoir gagné contre Monaco et Saint-Etienne. Franchement, c'est une bonne lancée et ça me rend pas pessimiste pour le SCO.
Ça permet de pouvoir préparer la trêve avec sérénité, Mathéo.
Bah, disons que j'avais vu de belles choses. Moi, mon pronostic était complètement biaisé. De toute façon, hein, c'était annoncé. Cette composition, elle est pas faite pour pouvoir résister aux assauts du Paris Saint-Germain. Forcément, on sait depuis le début de saison, ce qui fonctionne très peu, c'est les ailes. Et notamment du coup les latéraux, Carlener Arcus et Florent Hanin. Donc eux de leur côté, c'est pas qu'ils font un mauvais début de saison, c'est que c'est un peu l'élément faible du SCO. Et Paris a joué là-dessus toute la rencontre. Forcément, on a eu un côté droit qui a été véritablement le poison principal de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ce 4-2-3-1 que je trouve intéressant quand même, qui aurait pu faire quelque chose face à Paris, dans le sens où on l'a expliqué, on l'a dit et redit, on n'a pas vraiment deux ailiers, on a deux joueurs qui sont capables d'évoluer dans une position un peu plus axiale, donc forcément face à une équipe qui avait deux défenseurs, dont un qui joue plus trop, à savoir Milan Skriniar, il y avait des possibilités offensives. Maintenant forcément on est obligé de se focaliser sur la défense et d'en parler sur le fait que vraiment ça a été compliqué. Au-delà des latéraux, on a eu un placement dans la surface qui a été quand même assez hasardeux, et c'est triste de le dire. Maintenant, comme on avait dit, c'était annoncé, on l'avait dit aussi avec Alex, cette charnière centrale qui pour lequel le lien est pas vraiment évident pour l'instant, dans le sens où on a un défenseur qui n'est pas vraiment un central de métier, un autre qui est jeune, qui vient d'arriver de Bordeaux, qui n'a pas joué tous les matchs de Ligue 2 la saison passée. Donc forcément, c'est une équipe qui se construit en bien, je pense quand même, de par les entrées. Forcément, on peut parler d'Esteban Le Poll qui a été plutôt convaincant, je trouve, surtout avec son but, forcément, mais au-delà de ça, dans les déplacements, face à une équipe comme Paris, je l'ai trouvé vraiment intéressant pour lui qui, il y a un an, quand même, faut le dire, jouait en national. Donc il y a quand même des points positifs qui ressortent de ce match, malgré le fait que 4-0 mi-temps, c'est assez compliqué. Maintenant, une statistique qui peut rehausser un peu ce match du SCO, c'est que la dernière fois que Paris a pris deux buts dans les arrêts de jeu d'une rencontre, c'était contre le FC Barcelone, ouais, lors de la remontada. Donc, quand même, ça date d'il y a 8 ans sur un match qui est un match légendaire. Ouais. Donc, on a quand même eu cette petite statistique qui a été sortie, et c'est le SCO qui détient cette dernière désormais.
Avec Luis Enrique qui était sur le banc, mais pas du bon côté du coup.
Exactement.
c'était la personne qui avait fait encaisser ses deux buts au Paris Saint-Germain, et là, c'est lui qui les encaisse avec son équipe. Cédric, ton avis sur la rencontre entre Angers et Paris, où je sais que à la même heure, il y avait aussi du rugby.
Il y avait aussi le rugby, ouais. Mais non, après, en soi, de toute façon, on pouvait s'attendre à une défaite, hein, quand on voit le niveau actuel du PSG.
Ouais.
Hors Coupe d'Europe, parce que bon, quand on voit là qu'ils sont capables quand même de proposer des choses intéressantes, tu te demandes réellement ce qui manque en Coupe d'Europe. Je pense pas que c'est l'envie quand même, parce que si t'es en manque d'envie déjà pour cette compétition-là.
Et de la réussite, je pense qu'on est peut-être un peu tous d'accord, peut-être.
Ouais, bien sûr, c'est une équipe qui est faite pour mettre beaucoup de buts aux petits clubs, et contre les gros clubs, c'est beaucoup plus compliqué.
Et pourtant, ils ont les occasions en plus. Hein.
Ah bah bien sûr, c'est sûr, mais après on n'a pas vraiment de finisseur aussi dans cette équipe, vu que Ramos est blessé également.
Ouais, pourtant le PSV ou Riron qu'ils ont affronté, c'est pas des équipes qui sont pas meilleures que certaines équipes de Ligue 1, et pourtant ça se passe bien mieux contre ces équipes de Ligue 1.
Le PSV, faut le dire, comme exemple, c'est
pas
assez
forcément
parlant.
D'accord avec toi, Maurice.
Bah, le PSV,
au moins sur le PSV, ça met une nuance à pas mal d'équipes.
Ouais, mais le PSV sur le papier, c'est bien, mais le problème, c'est que.
Je parle de top 5 Ligue 1.
Voilà.
Top 5, 6.
Ah, quoique, PSV, tu la mets en Ligue 1, ça fait.
Pour moi, ça joue par là. Je pense pas que ce soit
ça joue podium.
Je pense que podium, Monaco et autres.
Non, je pense pas. Après, c'est pas pareil, parce que c'est difficile de juger le PSV qui joue en Eredivisie. Donc forcément, on voit dès que ça arrive en Coupe d'Europe, on l'a vu avec le Feyenoord en début de saison, ils peuvent se prendre des toises, et ça a été le cas. Donc le 1-1 de Paris contre le PSV, c'est pas normal à ce niveau-là. Ça, c'est évident.
Oui. À Maurice, on va la rencontre entre Angers et Paris.
Bah moi, sans revenir sur ce que Faustin, Mathéo ont dit par rapport à la défense du SCO, j'ai eu l'impression en fait de revoir un peu ce qui s'est passé sur les premiers matchs, surtout sur cette première mi-temps, avec des erreurs monumentales. On laisse des joueurs seuls. On a aussi une occasion d'Asensio qui se retrouve tout seul à 3-4 mètres du but, qui la met pas au fond. On s'est presque demandé comment. Après,
c'est vrai. Asensio.
C'est l'image de sa carrière.
Mais non, mais par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vrai que ça m'a déçu dans le sens où il y avait moins d'intensité dans les duels. On a laissé la possession au Paris Saint-Germain sur les 10 premières minutes. Il y a plus de 90% de possession de balles au PSG. Quand on voit que la semaine dernière, ils étaient pressés haut, les Monégasques, ils avaient du mal à des fois à sortir le ballon. C'est vrai que ça, c'était dommage. Après, bon, voilà, perdre contre le PSG. PSG qui fait un très bon match. Hein, on le dit quand c'est moins bien en Coupe d'Europe. Là, il faut le dire, hein, Paris a très bien joué, surtout en première mi-temps. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour le SCO. Maintenant, il faudra, comme on l'a dit hein, depuis le début de l'année, prendre des points face aux petits, parce que les autres petits prennent un peu des points quand même hein, sur en ce moment, que ce soit Saint-Etienne et les autres clubs. Donc le SCO, même comment ? Oui, exactement. Mais même avec, j'y pensais même pas. Mais même avec la bonne forme, on va dire, du SCO sur les derniers matchs, bah ils n'ont pas pris tant d'avance que ça sur les dernières positions. Montpellier qui a gagné aussi ce week-end. Donc
Montpellier reste à voir.
Prochain match. Comment ?
Montpellier reste à voir. Attention.
Ah oui, non, mais reste à voir. Je dis pas que Montpellier va faire peur à toute la Ligue 1. Mais Montpellier a pris des points et finalement, on est qu'il y a 3 points derrière le SCO d'Angers.
Après, si on voit la saison 2 ans en arrière, je suis pas sûr qu'on ait été capable de, sur le même match, de revenir et d'en remettre 2.
Clairement pas.
Ça prouve qu'il y a eu du travail quand même de fait, depuis cette saison-là qui a été, dire, catastrophique.
Hein, et... Même il y a un mois et demi. Hein, je pense que
tu
te dis même pas ça, il y a un mois et demi, sur dire la capacité du SCO à revenir de 4-0 à 4-2 en fin de match, même si c'est une fin de match et que du coup tu sens peut-être un Paris Saint-Germain un peu plus relâché, mais clairement, ouais, t'as raison. C'est vrai que je pense qu'il y a une avancée aussi là-dessus, psychologiquement parlant.
Et puis après, je sais pas si le club en soi, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, on va dire, de festivités autour de ce match-là.
Ah, le stade était plein.
En ça, oui, mais
c'était la plus grosse affluence de l'histoire.
Actuellement,
de l'histoire.
Oui.
De l'histoire du SCO.
J'ai cru comprendre de l'histoire du SCO.
Ah, c'est possible.
Oui, parce que, on est, je crois, 21 000 places vendues, un truc comme ça.
17.
Ouais, je crois que j'ai vu 17 000.
17 000 pour.
Mais vu que le stade s'est agrandi, ça m'étonnerait pas, que ce soit la plus grosse affluence de l'histoire du SCO.
Hors, place, offerte, tout ça, mais, on est sur la plus grosse influence, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup aussi de folklore autour, et est-ce que ça n'a pas un peu déconcentré les joueurs qui n'ont pas l'habitude, hein, mine de rien, de ça. Ça a pu peut-être y jouer, je sais pas.
Ils étaient peut-être plus décomplexés quand ils vont jouer à l'extérieur contre, tu vois, peut-être que ce match aurait été au Parc des Princes, peut-être que ça aurait été peut-être un peu plus décomplexé parce que, bon, ils l'ont fait au Vélodrome, ils l'ont fait à Monaco, donc.
Monaco, c'est pas vraiment l'extérieur.
Oui, c'est clair. Mais... Ouais, mais bon. quel bilan vous faites, vous tirez maintenant? Il va rester 4 matchs de Ligue 1 en tout cas pour Angers là après la trêve. Il va y avoir aussi ce match de Coupe de France. Donc en fait, il reste 5 matchs officiels en 2024. Quel bilan vous faites de ces premiers mois avec le SCO là?
On va dire qu'il est mitigé, évidemment, ce bilan. On a vu très mauvais en début de saison, puis du bien mieux avec presque une seule défaite en l'espace de 5 ou 6 matchs, je crois. Alors, plusieurs matchs nuls, mais 2 victoires de suite, dont des très belles victoires. Maintenant, on peut pas non plus oublier ce qui s'est passé en début de saison, surtout quand on revoit la première mi-temps là, même si c'est face au Paris Saint-Germain. On peut pas l'oublier. Maintenant, il va falloir réussir à être constant dans ce qu'on a vu. Tirer un bilan, je trouve que c'est compliqué finalement, parce que tant on a vu deux SCO différents, c'est le mot, je pense, qu'il faut dire, c'est mitigé. C'est le mot que, pour résumer, je pense, ce début de saison.
Mathéo, t'as l'air d'accord avec Maury?
Je suis plutôt d'accord, pas forcément dans le mitigé, parce que c'est quand même, je trouve, un peu au-dessus de ce qu'on attendait. Pour moi, mitigé, c'est quand au début de la saison, j'arrive, j'ai des attentes, et au final, il y a du bon comme du mauvais. Là, il y a du bon comme du mauvais, mais on s'attendait uniquement à du mauvais sur une équipe du SCO qui, il y a 2 ans, était vraiment très mauvaise en Ligue 1.
Avant le début de saison, tu t'attends qu'il y a du mauvais, toi?
Oui, ouais, concrètement, oui. Avec le mercato qui a été fait, avec concrètement plein de postes où il faut encore combler. Moi, de mon côté, ouais, je m'attendais à bien pire que ça. Je m'attendais pas à des victoires contre Monaco, mais après, ça, personne ne s'y attendait forcément. Mais même les matchs contre Toulouse et Strasbourg, en fait, tu peux les gagner. Oui. Tu peux avoir concrètement 4 points de plus au classement et ça fait une différence parce que t'es devant Rennes, parce que t'es devant Nantes, parce que t'es 11e ou 10e de Ligue 1.
Toulouse, on est complètement d'accord. Je crois que t'étais pas là à l'émission juste après, mais j'en avais parlé. Pour moi, c'est un match que le SCO aurait dû gagner, aurait dû pousser vraiment pour le gagner. Et c'est un petit regret, je pense, qu'on peut avoir sur ces derniers matchs aussi, de pouvoir pousser à fond là-bas.
Faustin, Mathéo.
Moi, j'attends de voir un peu les matchs là qui arrivent contre, après la trêve, du coup, contre Auxerre et Le Havre, pour savoir comment placer le SCO, parce que c'est les deux matchs charnières, clairement, qui qui vont définir si on réussit notre première partie de saison ou non. Je pense que c'est essentiellement ces deux matchs-là qui arrivent, qui vont pouvoir donner vraiment un bilan sur la forme du SCO dans cette première partie de saison.
C'est vrai. Pour finir.
Encourageant, mais il doit maintenir ses efforts.
Ça, c'est vraiment bam bam. Voilà, c'est
le conseil de classe.
Conseil de classe, exactement. On a le prof du techno en face, là.
Bon, on est à peine sur du 11 de moyenne, mais...
C'est ça, exactement.
Non, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, ils étaient sur une bonne dynamique, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a bien évolué. Donc on peut considérer Paris comme un accident qui était prévu.
Ouais.
Lyon, à voir. Il y a peut-être moyen quand même plus facilement d'aller chercher un match nul. Malgré que, bon, en ce moment, c'est quand même Lyon qui est assez solide, mais on sait jamais, quoi.
Bah, Lyon, on verra, ça va dépendre aussi de la
domicile.
Ouais, c'est à Angers, et on va voir en fonction aussi de la forme financière de l'OL, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Lyon va devoir repasser devant la DNCG bientôt aussi. ce qui me fait très mal, bien évidemment, mais donc ça, c'est pareil. Est-ce que ça sera dans la tête des joueurs?
Ouais.
Mais oui, bien évidemment qu'il y a des points à gagner. Le SCO a trouvé son 11, donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et le vrai match important, ce sera contre Auxerre, parce que Auxerre, c'est une équipe
qui joue
peut-être pas le maintien finalement.
Est-ce
que toi, tu peux venir jouer, parce que je crois que c'est à Auxerre.
C'est à Auxerre.
Est-ce que tu peux venir là-bas et jouer et montrer que toi aussi, en fait, t'es peut-être pas un club qui joue le maintien. C'est ça l'idée. Même si je pense que le SCO, non mais c'est dans l'idée si tu veux.
Oui, je vois ce que tu veux dire. On rappelle le calendrier. À Auxerre, au Havre. Ouais. À domicile face à Lyon et à Rennes. Et donc après il y a la Coupe de France aussi.
Rennes, j'aurais bien aimé les prendre là tout de suite et pas dans un mois.
Enfin là, on rappelle aussi à nos auditeurs que donc Jorge Sampaoli a signé à Rennes et donc est le nouveau coach de Rennes suite au limogeage de j'allais dire de Guy Stéphan mais non de Julien Stéphan. Donc
après,
voilà.
À voir réellement ce que ça va apporter à Rennes. Sur le papier, c'est beau. On verra sur.
On sait pas, mais on sait qu'un changement de coach comme ça, il y a un électrochoc
normalement,
quand même.
Oui.
Souvent.
Ouais, oui. Bien normalement.
Ah bah, il va mettre un électrochoc, c'est sûr.
Est-ce que ça va bien prendre? C'est
moi,
ça.
Moi, le doute que j'ai sur Sampaoli, c'est Sampaoli et Rennes. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va ensemble. Rennes, c'est un club, j'ai envie de dire calme dans son fonctionnement et tout, où il y a pas de vagues. Sampaoli, c'est tout l'inverse. Il correspondait très bien à Marseille aussi quand il y était. Par ça, hein, c'est la passion, mais c'est aussi du bon, du moins bien, d'un peu dans tous les sens. Est-ce que ça a fonctionné à Rennes? Je leur souhaite, franchement, parce que Rennes, c'est un club qui mérite, qui fonctionne bien quand même depuis quelques années. Et la phase qu'ils traversent est très compliquée.
Eh ben, on parlera de Marseille, on parlera de Rennes et de la galette saucisse, la compatibilité entre la galette saucisse et Jorge Sampaoli, juste après la pause musicale. Faustin, qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
On va s'écouter Incredible de Sia, feat Labyrinthe, musique de FC25.
Je pense qu'il va adorer la galette saucisse un peu.
I know the world gets tough. Say the word and I left you out. Yeah, I know the world gets tired. Say the word and I left you out. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me good, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it.
Incredible. Say the word and I'll lift you up. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, woman, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, woman, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it.
Incredible de Sia et La Brant avec ça c'est sur le FC 25 et donc si vous voulez vous y aller allez-y allez jouer à FUT et au tout nouveau jeu FC 25. Il y en a qui jouent autour de la table à FC 25 ou pas?
Ouais, moi je suis un adepte.
T'es à division quoi?
J'étais division 2 saison dernière.
Ah oui. Ouais. Ah ouais, on est
100% de qualification FUT champion.
Ah ouais, là, ah ouais, vraiment.
En place, on est
on est sur un bon niveau même. On regardera, on comparera nos équipes plus tard. Les gars, on passe de FC25.
Moi, tout qui est 25 un peu, mais, okay. mais pas.
Moi, j'ai malheureusement craqué deuxième semaine de fac, je l'ai acheté. et disons que, déjà, j'ai pas voulu lancer FUT pour commencer, parce que j'ai envie que mon année scolaire se passe quand même bien et que je garde ma manette le plus longtemps possible. Donc, non. Et par contre, j'ai joué beaucoup au mode carrière, mais en fait, j'arrête, je reprends, parce que je rage beaucoup sur FIFA et c'est un problème. Donc, je l'ai, mais disons que des fois, il est au placard pendant 2-3 semaines.
Et bon, le score est rendu en Ligue des Champions?
Le SCO l'a remporté, bien évidemment.
Voilà. Avec un but de Bioula.
Exactement, exactement. Et Kalumba, tu es indiscutable également.
En fait, la cote, la semaine dernière, on l'a pas donnée à nos auditeurs, mais la cote que tu avais programmée avec les buteurs, la victoire et compagnie.
Ça a bien marché, hein, finalement.
Elle était à 1100. Et bah, la cote était à 1100. Non, mais si tu mettais
victoire du SCO avec Bioula.
Avec Bamba Dieng qui marquait, non, ouais, t'avais dit Dieng?
Je pense que j'avais dit Nian.
But de Nian, Barcola et Bioula. Ouais. Et victoire du SCO 2-1. La cote était à 1100.
Ouais. Heureusement que personne n'a suivi. Non,
Cédric, est-ce que t'as un jeu auquel tu joues, toi? Non?
En ce moment, non, je suis pas sport. Je suis malin, faut rentabiliser son Game Pass et on sait que au bout de 6 mois le FIFA il arrive.
Oui, c'est
le FC il arrive pareil. Donc écoute, au lieu de mettre 70€, j'attends tranquillement puis
oui,
on commencera plus tard après.
FIFA c'est compliqué.
Sauf si on est vraiment compétiteur dans l'âme et qu'on veut performer, je comprends qu'effectivement qu'on l'achète Day One, mais maintenant là c'est ça évolue pas tant que ça, si on prend juste le gameplay pour les matchs en soi, ça fait des années que ça stagne. Il y a le concurrent gratuit qui est un peu plus intéressant actuellement. Donc.
D'ailleurs, sur FIFA, il y a une info qui est sortie, alors c'est pas officiel, mais comme quoi ils penseraient pour les années à venir à faire un jeu avec des grosses mises à jour sur plusieurs années. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est vrai
ça date quand même, ça, je crois.
Ouais, c'est l'idée, elle est dans les vraiment, il paraît que ça serait en train de se concrétiser. Donc franchement, ça pourrait peut-être être bien.
Ou alors, il ferait un jeu à la Touquet avec un monde ouvert aussi.
Oui, avec un monde ouvert.
Ça serait génial.
Ça serait pas mal.
À voir ce que ça donnera.
Ils ont essayé le mode histoire, ça n'a pas forcément marché.
Alex Hunter à l'époque.
Ah, j'ai eu de l'impact quand même.
Alex Hunter,
c'est bien. Je pense qu'on en garde tous des bons souvenirs.
Ah bah oui. Peut-être quand tu vois toutes les vidéos sur YouTube que tu peux te refaire.
Ouais, c'est fou.
Avec les différents modes et tout.
Je crois que je vais le relancer.
après, quand on sait que de toute façon, c'est FUT qui.
Ok, j'ai un peu d'argent.
Voilà,
c'est sûr. C'est sûr. On va quand même rester sur la Ligue 1 avec les résultats du week-end. Avec Marseille qui s'est incliné face à Auxerre. Ah, tu les avais?
Ah, je les avais, ouais, mais bah, tu peux les donner si
allez,
tu
vas-y.
Veux.
Bon, non, bah, vas-y, Mathéo, vas-y.
Allons-y, donc la Ligue 1 avec les résultats du week-end, indépendamment du SCO, vu qu'on en a déjà un petit peu parlé quand même.
Oui.
À commencer donc par cette défaite surprise vendredi soir. T'inquiète, je vais bien prendre les choses chronologiquement. Ne t'inquiète pas, Amaury. Donc en ouverture de la 11e journée, victoire d'Auxerre 3-1 au Vélodrome, avec notamment donc le 3-0 à la mi-temps. Amaury, est-ce que tu souhaites réagir sur ce match et sur la situation actuelle de l'OM, puisqu'on rappelle que les supporters voient un club en crise. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? On va pouvoir débattre autour du plateau de ça, à commencer par toi.
Est-ce que c'était toi qui a fait tomber ta cigarette électrique?
Non, bah, j'écoutais tout à l'heure, avant de venir, il y avait Mehdi Benassia sur RMC, et qui disait parler de crise quand on est troisième, je trouve ça compliqué. C'est vrai, pour moi, on peut pas dire qu'on est, exactement. Je peux pas dire qu'on est en crise, parce que quand on voit l'effectif qui a été totalement changé, et on voit les clubs qui étaient tous devant nous quand même la saison dernière, bah, tous pour beaucoup devant nous, la plupart aujourd'hui sont quand même derrière, alors que c'est un effectif qui est nouveau, avec un nouveau coach. Donc on se dit, ça peut pas aller dans le mauvais sens. Normalement, tout se construit au fur et à mesure, ça peut pas aller dans le mauvais sens. Donc de ce côté-là, se dire on est troisième à ce moment-là, je pense que la plupart des gens auraient signé. Après, voilà, on est à Marseille, on fait trois matchs de suite mauvais, même s'il y a eu Nantes entre les deux où c'était un peu mieux. Et tout de suite, bah, ça s'enflamme. Ce week-end, c'est vrai que la première mi-temps, surtout, c'est horrible. C'est horrible. On voit la défense centrale, l'erreur de Brassier sur le but. Je me rappelle même plus quel but c'est. C'est le premier ou
le premier.
Ouais, c'est le premier. Mais peu importe, il y a des choses qui vont pas. Maintenant, j'irai pas sur le mot crise encore. Je vais essayer de pas avoir mon côté marseillais, d'avoir le côté un peu plus carré journaliste, on va dire. Non, pour l'instant, c'est pas en crise, mais c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer.
Flo, est-ce que toi, ça te séduit, coach de Zerbi, pour l'instant?
Non, mais en fait, je trouve que le choix du coach est intéressant. Maintenant, après, faut
l'espérer même.
Exactement. Et faut peut-être lui laisser le temps aussi de bien se préparer, de bien aussi avoir le temps de faire les choses comme il a fait par le passé, notamment à Brighton. Mais je trouve que en fait on est un peu trop gentil avec Marseille, parce que on oublie que, alors oui, certes il y a des concurrents derrière, mais sauf que en termes de budget, bah Marseille c'est clairement au-dessus. Ils ont fait des choix forts et vouloir faire des recrues, c'est pareil, hein. Je trouvais que on est dur avec Lyon par rapport au budget, mais je trouve que Marseille, à un moment donné, il faudra m'expliquer d'où ils ont sorti l'argent cet été pour recruter autant.
Il y a eu énormément de ventes quand même sur et tous les prêts avec options d'achat qui sont revenus de l'année d'avant, des
ouais, après, ça,
etc.
Ça fait quand même...
quand tu regardes le bilan, il y a pas eu vraiment pas beaucoup d'argent injecté finalement, quand tu regardes vraiment en détail tous les prêts avec qui ont été de l'année passée. C'est vrai que à première vue, je m'étais dit pareil, et quand j'avais vu finalement, il y a des joueurs qui ont été bien vendu pour une fois à Marseille.
Bah, je veux bien voir alors. Parce que du coup, parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir.
Ouais. Mais faudrait que je le retrouve. Mais j'avais vu ça sur la fin de l'été. Mais il y a des joueurs qui ont été bien vendus, ce qui est très rare à Marseille, contrairement à Lyon par exemple, qui vend beaucoup mieux. Même si ces derniers temps, ça n'a pas été le cas.
Lyon, c'est compliqué.
Ces derniers temps, ça n'a pas été le cas. Mais
ça fait 5-6 ans que vraiment.
Mais finalement, moi, sur le côté financier, cet été, j'avais vu à la fin. C'était plutôt équilibré, je crois qu'il y avait une vingtaine de millions qui avaient été injectés par Frank McCourt, mais sinon tout était sur des
Non, mais le problème, c'est, tu vois, c'est ça, c'est sur les deux dernières années, ils s'annonçaient en Ligue des Champions, où ils annonçaient aussi une place. La DNCG approuve le bilan, parce que c'est comme ça en France, hein, on estime qu'on va finir à telle place, donc donc ça offrira tel budget à la fin de l'année. OK, donc on peut faire ça. Sauf que à la fin, il y a deux saisons de suite où Marseille ne le fait pas, ça. Et donc, tu vois, je trouve ça très dur de taper sur Lyon. Alors, ça va être à juste titre, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il se fasse taper sur les doigts. Mais il y a d'autres clubs qui, pour ma part, je pense, devraient l'être aussi. Et après, la deuxième chose, c'est que je trouve que, en fait, c'est un peu système d'enflammade, un peu Marseille en ce moment. C'est, avant Paris, c'était open bar. C'était sûr qu'ils allaient gagner face à Paris. C'est l'année ou jamais. Quand t'écoutais tous les supporters à la radio,
bien sûr.
Je sais que toi, Maury, t'étais pas dans ce mood-là. Mais tu vois, donc, et après ça, on a vu des supporters dire c'est une équipe de bananes et tout, voilà. Le gain contre Nantes, ça repart, et là derrière contre Auxerre, ça redescend. Donc un peu plus de stabilité, tous derrière de Zerbi. Je dis tous, je suis pas supporter marseillais, mais j'ai juste envie de voir ce coach-là réussir, et on verra la suite pour l'OM.
Il a déjà commencé à faire un petit électrochoc par rapport à ça. Quand il annonce en conférence que limite, c'est moi le problème.
Oui,
je pars et puis on verra si vous pouvez vous en sortir. c'est, je pense que c'est sa façon de dire, bah, laissez-moi aussi travailler, hop, et on verra à la fin de la saison.
Après, le problème, c'est aussi l'ambivalence des projets marseillais. L'année dernière, on fait un projet type PSG où on te ramène que des stars. Et puis cette année, on essaie de te former un peu des nouveaux joueurs avec un peu plus de budget aussi. Mais c'est vrai que passer du tout au tout en deux années, c'est un peu compliqué. Toi, t'en penses quoi, Faustin, justement de ce Marseille, le Marseille actuel?
Je pense aussi ce qui pèse sur l'esprit des supporters, c'est le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe cette année à jouer pour Marseille, alors qu'ils voient que, bon, pas le PSG, mais du coup Brest, Lille et Monaco, ils brillent en Champions League et eux, ils ont rien à se mettre sous la dent. Et je pense que ça embête pas mal les supporters marseillais qui ont l'habitude quand même de jouer l'Europe. Et puis c'est des chocs aussi le problème de Marseille, c'est que ils perdent contre le PSG, ça peut être attendu, mais perdre 3-1 contre Auxerre, c'est un choc, c'est un gros coup, ça fait mal au moral. Et c'est là du coup que ça peut plus réagir, c'est pour ça qu'on les voit plus réagir aussi, je pense.
C'est souvent le cas du coup aussi au Vélodrome, j'entendais Samir Nasri qui disait ça dans le Canal Football Club et... C'est intéressant.
Si on regarde les matchs, on regarde comment ça joue au Vélodrome, comment ça joue à l'extérieur, c'est pas la même chose. Les joueurs à Marseille ont peur au Vélodrome depuis le début de saison. Alors je sais pas si c'est senti par les joueurs, mais en tout cas quand on les regarde jouer, ils jouent comme une certaine personne dirait, vous jouez avec la peur quoi. Je sais pas si vous avez la référence.
Oui, je vois bien.
Mais c'est vrai, alors que ça joue beaucoup plus libéré à l'extérieur et en fait Marseille est leader de Ligue 1 à l'extérieur depuis le début de saison. J'ai pas le classement à domicile, mais je pense qu'on n'est pas en première moitié de tableau. Et donc c'est ça. Après tu parlais de la Coupe d'Europe, c'est sûr que quand on se dit tu peux perdre des matchs peut-être le week-end quand t'as joué la Coupe d'Europe, quand t'es Marseille et que tu as l'effectif que t'as, que tu n'as pas joué la Coupe d'Europe, que t'arrives, que t'es frais, que t'as préparé le match depuis 5 jours. C'est vrai que c'est des fêtes face aux petites équipes, bah, elles passent beaucoup moins bien.
Si Marseille est hors podium à la fin de la saison, ça serait un scandale monumental.
Ouais, il y a des têtes qui devraient tomber.
Bah, voilà.
Dans la logique,
tu finis hors podium sur une saison.
Sur deux saisons d'affilée
et sur une saison où, en fait, toi, tu ne joues pas l'Europe du tout. Où tu joues, comme dit Amaury, t'as que le match du week-end à t'occuper, en fait. Bah, ça serait un scandale monumental.
Quelle tête tu veux faire tomber, sachant que les joueurs ont été changés, quasiment tout l'effectif. Le coach a été changé. Il faut de la continuité. Pour moi, c'est un coach. Même si ta saison, elle est pas 100% réussie, faut garder. Si c'est possible, faut garder. Parce qu'il faut de la continuité à Marseille, ce qu'on n'a pas vu depuis beaucoup trop d'années. C'est le plus gros problème à Marseille, c'est la continuité. Donc, je pense que même si ta saison n'est pas 100% réussie, faudra de la continuité.
Bah, il faudra faire sauter soit Pablo Longoria, soit Mehdi Benassia.
C'est pas choquant, Benassia, avec toutes ces sorties médiatiques, même si ça n'a pas un problème en soi.
Ouais.
C'est ça, en fait. C'est que concrètement, ça chauffe encore plus les supporters, et après, il y a une cassure à ce niveau-là, quoi.
Ouais, je sais pas, parce que pour moi Benassia il prend le mauvais rôle, mais c'est calculé, tout est calculé en fait.
C'est possible,
mais après
c'est
tout à l'heure.
Dès qu'il faut
dire quelque chose, c'est lui qui va le prendre. Longoria il va rester très très carré derrière tout droit vu que c'est le président. Mais je suis pas sûr que pour moi ça va ensemble. Ce que dit Benassia, Longoria il valide de toute manière.
C'est son fusible, ça. C'est comme dans beaucoup de clubs
aussi.
T'as beaucoup de personnes autour du président qui servent de fusible, et puis quand t'as plus de fusible, voilà, tu sautes. Mais là, clairement, ça fait des années quand même qu'il, dans ses déclarations, il est pas forcément en accord avec son projet tout au long de la saison. Donc quand on t'annonce un super projet et que derrière, tu rames, et derrière on dit non, mais c'est bon, cette année ça va être encore mieux. Tu rames. À un moment, remets-toi en cause et. N'annonce pas tous les ans un OM Champions League projet, quoi.
Ouais. Comme c'est le cas depuis maintenant le début de ma courte, donc moins 5 années. On va passer au résultat de. Non, tu veux rajouter quelque chose?
Un peu plus que 5 années, même. Hein. Ça commence à faire.
Ça commence à dater. Samedi, du coup, Monaco a renoué avec le succès en championnat en s'imposant à Strasbourg 3-1, avec encore un super match, un doublé d'Elias Benseguir qui réalise le meilleur début de saison de sa jeune carrière. Victoire de Lens aussi, je pense à toi, Flo, sur Nantes. Avec notamment, on n'en a pas parlé, mais ce jet de balle de tennis qui sera répété lors de la défaite du SCO aussi. Est-ce que vous voulez réagir rapidement par rapport à ça?
C'est un nouveau moyen de
ça se fait déjà en Angleterre régulièrement.
On l'a vu en Ligue 2 aussi.
Ouais. Ça part de la Ligue 2.
C'était par rapport aux horaires des matchs de Ligue 2, j'ai pas bien suivi.
Là, c'était pas par rapport à ça, mais c'était à l'époque en Ligue 2, c'était ça. C'était qu'on a mis tous les matchs le vendredi et que c'était plutôt problématique.
Je croyais que c'était un soutien des supporters.
Si, mais en fait, c'est un ensemble.
Un ensemble.
C'est la diffusion des matchs sur DAZN, la nouvelle programmation, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, plus. leur ras-le-bol aussi des supporters d'être traités comme des sacs à pognon.
Des vaches à lait.
Mais... Parce que maintenant, c'est, ils peuvent même plus faire de protestation contre la ligue. Dès qu'il y a un petit truc, c'est suspension, pénalisation pour le club. Donc, bah, en soi, c'est pas méchant, je trouve. C'est, alors ça, selon les matchs, ça peut,
c'est,
oui, je crois que c'est une, ah non,
c'est le problème, c'est, ça lance, mais après, ils arrêtent le match.
Ils ont arrêté le match.
Bien, voilà, après. Le souci, c'est qu'il faut qu'ils trouvent une autre manière de protester, parce que du coup, ça vient aussi handicaper le match et la rencontre.
Ah, mais tu peux plus faire de tifo.
Ouais, mais je pense que moi, la meilleure solution, faudrait qu'il y ait de l'unité entre les clubs de supporters des différents clubs, que tout le monde se dise sur cette journée-là, on se met, cette journée-là, ou plusieurs journées, on se met tous d'accord. Et je pense qu'en fait, ce qui embêterait le plus la ligue, c'est que bah, les clubs de supporters ne viennent pas. Tout simplement, ils disent bah sur cette journée-là, il y a pas un seul les groupes de supporters viennent pas au match. Et en fait, je pense que pour l'image de la ligue, ce serait tellement tellement mauvais qu'à un moment, bah ça ferait plus facilement craquer si tous les clubs se mettent d'accord là-dessus. Lancer des balles de tennis, ça arrête le match. Mais est-ce que finalement, ça va faire changer quelque chose? Je pense que ça rajoute juste de l'huile sur le feu. Finalement, dans l'entente qui est catastrophique entre la ligue et les supporters, le jour où les supporters tous ensemble, tous les clubs, ils disent bah on vient pas ce week-end, et surtout que je pense que si les clubs de supporters font ça, on va dire nous, hein, quand qui venons en tribune latérale, pas forcément dans ces groupes-là, on va moins être enclin aussi à aller au match. Et alors, ça peut faire mal à son club parce que la billetterie, etc. Mais je pense que ça ferait encore plus mal à la ligue.
Ouais, bon, bah, sur ce, c'est une bonne décision.
Ouais, c'est une bonne idée. Après, c'est toujours la même chose, c'est dans une ligue rationnelle avec des dirigeants rationnels, encore une fois.
Et
on va pas étirer le sujet encore longtemps. On va passer au résultat de dimanche. Donc de partout entre Nice et Lille, victoire de Reims 3-0 au Havre, rebond pour Montpellier aussi assez étonnant qui s'impose 3-1 face à Brest et qui revient donc sur les équipes de bas de tableau au niveau comptable. Nouvelle défaite pour Rennes qui stagne à la 13e place face à Toulouse et enfin grande, que dis-je, facile victoire de l'OL donc 1-0 face à Saint-Étienne dans le derby. Derby qui était de retour en Ligue 1 pour notre plus grand bonheur à tous. On a vu la hype un petit peu sur les réseaux sociaux qui était peut-être même plus grande qu'espéré. On va passer rapidement aussi aux résultats en Coupe d'Europe pour nos clubs français avec la victoire de Monaco sur Bologne, nul de Lille contre la Juve, victoire de Brest contre le Sparta Prague, défaite cruelle également pour Paris face à l'Atlético dans les dernières secondes. Voilà pour la LDC. Puis concernant l'Europa League, énorme fin de match entre l'OL et Hoffenheim avec un 2 partout à la clé et enfin match nul de Nice contre Twente. Est-ce que vous voulez réagir rapidement par rapport à ça autour du plateau?
Oh non, c'est bon, je pense que
semaine classique de Coupe d'Europe
par équipe.
C'est surtout qu'on a au moins trois clubs qui sont bien qualifiés, qui seront assez hauts pour
le tour suivant. On est à mi-parcours de la Ligue des Champions, donc c'est
encourageant.
Deux qui sont sûrs au moins de faire les barrages. Lille, c'est pas encore sûr, mais ils sont bien partis. Paris, va falloir prendre les points face aux deux petits qu'ils affrontent, petits qu'ils affrontent, et essayer au moins de prendre sur un des deux matchs face au Bayern ou City.
Ah, je pensais que tu parlais avec second degré de du Bayern et de City en disant les deux petits qu'ils affrontent.
Le Bayern quelque part est pas très loin en termes de classement.
Oui,
et City pareil.
Hambourg et
c'était Stuttgart et un club de l'Est, je crois.
Mais bon, faudra prendre ces points là.
Peut-être Stuttgart ou quelque chose comme ça. On enchaîne sur la NBA ou le Vendée Globe, c'est comme vous voulez.
Va sur le Vendée Globe et j'enchaînerai après, je lancerai sur.
Super. Alors donc 10e édition déjà du Vendée Globe et un petit peu compliqué par manque de vent et donc ces images impressionnantes de bateaux qui faisaient presque du surplace. Un décennaire de navigation et comme chaque année une question qui pour détrôner Armel Lecléache et son record de 74 jours 3 heures et 35 minutes, lui-même l'a annoncé, tout est possible cette année. Est-ce que 8 ans après, on y croit, est-ce que ce record peut tomber cette année?
Moi, quand je vois l'évolution des bateaux, les foils au niveau du bateau qui permet au bateau de voler au-dessus de l'eau, ils vont de plus en plus vite. Donc évidemment que c'est possible. Après, la météo a aussi un impact fort là-dedans. Est-ce que il va y avoir des vents qui vont pousser? Est-ce que justement ils vont être pendant une longue période avec des vents très faibles? On sait que en dessous l'Afrique du Sud, etc. Il y a certaines périodes où on est pendant plusieurs jours à faire faire, à pas avancer, à faire à distance qu'on aurait pu faire en 3 heures avec des vents forts. Donc il y a cette part-là. Après, les bateaux et les skippers qu'il y a, ils sont entraînés pour, les bateaux sont assez bons. C'est possible. Maintenant, il y a une part de chance.
Ouais, ce que je voulais dire aussi, cette part de chance, elle est prépondérante, en fait. C'est incroyable de se dire que parfois ça se joue là-dessus, en fait. Ça se joue à un détail près, quoi.
La part de chance, c'est encore plus pour le record que pour le vainqueur, parce que même ils passent pas forcément exactement au même endroit, ils ne passent pas forcément exactement au même temps, à un moment, il y en a un qui peut rattraper énormément parce qu'il a les meilleures conditions. Mais finalement, entre eux, ça reste à peu près équilibré. D'un Vendée Globe à l'autre, c'est compliqué de comparer. Alors, s'il y a 10 jours d'écart à l'arrivée, on fait là, c'était quelque chose d'autre.
Ce sera compliqué, je pense, d'arriver.
Jours, ils sont 40
ils sont pas prêts de finir quand même avant Noël.
On a quand même 4 grands favoris aussi. En tout cas, le principal, c'est Charlie Dalin, le français de Massif, qui était en tête et qu'il a perdu il y a quoi, 2-3 heures, dans une bataille annoncée avec Sam Goodchild. Qui lui a piqué donc cette place, suivi de près par Johan Richemond, après avoir franchi donc le cap de Finistère cette nuit. Ouais. Est-ce que vous voyez par exemple l'anglais succéder à Yannick Bestaven? On a vu beaucoup d'étrangers venir au sable également, espérer pourquoi pas une victoire étrangère. On a vu quelques interviews notamment d'anglais. Est-ce que cette année c'est ça qui va arriver ou encore une fois ce sera un français?
Ça sera un français.
On est à 9 victoires françaises en 9 éditions. On peut faire 10 quand même.
C'est clair.
Sur 10, c'est pas mal.
Ouais, s'il y a bien un sport où on peut dominer pendant des années, c'est quand même ça, quand même.
J'ai vu qu'il y avait la Fédération française de la Loose au Sable d'Olonne. Donc ça m'a fait peur quand même.
Je me laisse tranquille, la Fédération française de la Loose.
Il nous laisse tranquille. Et donc Charlie Dalin comme grand favori pour vous?
Ouais, c'est
qui a annoncé, en tout cas.
C'est lui, hein, c'est clairement lui. Après, il y en a un qui a été vers secret aussi, qui était journaliste. Je crois que c'était Athanéo aussi, qui est là aussi. Mais qui est un peu de la région, qui était de Segret, qui est né à Château-Gontier, donc qui est pas très loin. Donc on va le suivre aussi de près, quand même, celui-là aussi, pour voir un peu.
Et moi, mon chouchou, Jean Le Cam, toujours.
Ah, toujours. La référence.
Toujours.
Eh ben, on verra. Écoutez, adviendra ce qui adviendra de ce Vendée Globe qu'on va suivre semaine après semaine, bien évidemment, qui devrait durer, donc, aux alentours, encore une fois, de 75-80 jours. En global.
Et plus pour les dernières positions.
Oui, bien sûr, on parle vraiment pour connaître le vainqueur final.
On enchaîne avec du basket. Et donc cette semaine, juste avant de parler de la NBA, il y avait encore de l'Euroleague. Et donc nos clubs français, c'est mitigé. Le mot, je le dis plusieurs fois aujourd'hui. Monaco et Paris qui continuent leur belle série. Paris qui est sur 4 victoires d'affilée. Mais l'Asvel qui s'enfonce de son côté, 4 défaites d'affilée. Ça ressemble un peu à ce qui se passait les années précédentes malgré un bon début de saison. On a aussi pu voir la très belle performance d'Evan Fournier avec Olympiakos, 22 points avec 3 paniers dont 2-3 points dans les dernières minutes
time.
Qui permettent vraiment à Olympiakos de battre le Panathinaikos dans un derby grec. Donc très bon match d'Evan Fournier qui a passé de nombreuses années en NBA. Et donc d'ailleurs, en parlant de la NBA, on a 2 grands fans ici, Flo, Faustin. On a Mathéo qui commence à s'y intéresser. Cédric, qui suit peut-être un petit peu aussi, je ne sais pas.
Ah, moi, je suis nostalgique des Bulls de 92. Je suis quand même un peu... Mais pas mal de résumés, parce que bon, maintenant, c'est dur de regarder la NBA en ce moment. Mais il y a pas mal de belles petites choses en ce moment, un peu surprenantes, où on s'y attendait pas forcément.
C'est clair. Et ça, moi, je voulais prendre la température un petit peu, savoir ce que vous retenez un peu après 3 semaines. On a vu un super départ des Suns, des Warriors, les Cleveland Cavaliers toujours invaincus, des belles performances de Français, dont Zachary Risaché qui se réveille au fur et à mesure, et Jokic qui est incroyable cette dernière semaine. Qu'est-ce qu'on retient après 3 semaines? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, Faustin?
Il a envie de faire son point habituel. Je le sens.
C'est le départ de Cleveland que j'avais mais pas du tout vu venir. En plus sous les ordres d'un Français, donc ça on reste un peu dans le thème de Kenny Atkinson, qui font un boulot monstrueux. Ils rentrent dans le top 10 des meilleurs départs de la NBA de tous les temps en étant 12 matchs 0 défaite. Ils prennent des grosses équipes en plus de ça. Ils font vraiment, pour les avoir vus jouer, ça joue super bien. Il y en a partout. T'as Evan Mobley en défense, t'as Darius Garland qui peut prendre feu, t'as Donovan Mitchell si Darius Garland est moins dedans. Même Evan Mobley, il peut scorer. Enfin, c'est vraiment un effectif bien construit qui peut viser plus grand que ce que j'avais pensé au début de saison.
Non, ben on en parlait l'autre fois ensemble. Cleveland, on les voyait bien, mais je pense qu'on les voyait tous autour de la 4-5e place à l'Est, ce qui est très bien. Mais de là, les voir dominer complètement, jouer aussi bien avec un effectif.
C'est la meilleure équipe de NBA actuellement.
Et ce qui est très fort, en fait, c'est que ils ont une équipe. Vraiment, ils ont pas quelques individualités. Ils ont une équipe. On voit Donovan Mitchell qui, quand il faut laisser la balle à Garland parce qu'il est en feu, il va laisser la balle à Garland parce qu'il est en feu. Et il va pas se dire c'est moi la star numéro un de l'équipe, je prends les choses en main. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant quand on voit qu'il y a plein de jeux. En fait, ils sont 4-5 joueurs capables de marquer 20 points sur un soir. Et ça, c'est compliqué à défendre pour les équipes en face. Leur défense, c'est pas nouveau. L'année dernière, ça défendait déjà très bien. Donc quand on rajoute en plus ça une attaque qui fonctionne bien avec des pourcentages au shoot. Alors, il faut en parler. Est-ce qu'ils arriveront à garder ça toute la saison? Mais bon, je disais ça aussi il y a une semaine et demie et pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc maintenant, hâte de voir la suite. Quand est-ce qu'ils perdront leur premier match? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils iront chercher le record des Warriors? Je ne crois pas quand même. Ils sont à mi-chemin. Ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, peu importe. Même s'il y a une première défaite qui arrive, même sur le prochain match, ça ne changera rien à ce début de saison et à ce qu'on peut maintenant peut-être imaginer pour Cleveland.
Bah, on va voir. Hein. De toute façon, pour l'instant, ils sont sur un nuage. Comme le dit Faustin, ça joue très très bien au basket. Les rotations sont bonnes. Chaque joueur connaît son rôle, est capable aussi parfois d'augmenter un peu son terrain ou ses minutes pour pouvoir aussi avoir son rôle un peu plus important. Donc c'est hyper intéressant et de voir ce que fait Atkinson, ça montre encore une fois que c'est un bon coach et que son époque chez les Nets, il n'avait pas forcément toutes les armes à cette époque-là pour pouvoir produire ce qu'il voulait produire. Et là, il arrive vraiment avec un bagage technique et une expérience folle. Donc, ça va être hyper intéressant à suivre.
Et puis, on sait que dans le sport américain, ce qui compte, c'est d'aller en play-off.
Oui, c'est ça aussi.
Ouais, ils sont plutôt bien partis.
En tout cas, là, oui.
Il y a peu de chances de ne pas les voir, je pense.
Ouais, là, ça m'étonnerait, vu le début de saison. Et puis, il y a la NBA Cup qui arrive après aussi.
Dès ce soir. Ouais, ça commence ce soir, la NBA Cup.
Des beaux parquets.
Exactement, des très beaux parquets. Si on peut les mettre en avant sur les réseaux sociaux, je pense qu'à les voir là-dessus. Ça va être hyper intéressant. 20h58 sur Radio G et sur le 101.5 au sein de Génération Sport. On va quasiment se quitter là-dessus parce que je sais que la suite arrive
très rapidement.
Imaginaire qui arrive juste après nous. Donc on va les accueillir en studio dans pas longtemps. L'occasion aussi quand même pour nous de faire un détail un peu plus complet sur la NBA. On l'avait promis la semaine dernière. Malheureusement, la maladie nous a touchés au sein de l'émission. Mais cette semaine, on est quand même plutôt en forme. Donc normalement. Jeudi soir.
Ouais.
Ça sera le rendez-vous Génération Sport sur Twitch pour parler de NBA et de faire en sorte que voilà, on se puisse aussi se faire plaisir là-dessus. D'autres émissions, on le redit chaque semaine, vont arriver sur Twitch. On va prendre le temps de créer tout ça pour vous. Est-ce qu'il y a une dernière info rapide à donner en 20 secondes ou on se quitte là-dessus?
Allez, on va sur le 15 de France.
Ah oui, quand même.
Qui a battu le Japon 52-12 en menant 31-0 à la mi-temps, je crois. Ouais. Et donc, il y a le 15 de France qui va affronter les All Blacks.
C'est surtout ça, voilà, objectif, les All Blacks.
J'ai plus le jour où ils vont affronter.
C'est samedi soir.
Donc, les All Blacks qui restent sur des victoires face à l'Angleterre et à l'Irlande. Donc, très gros match, très gros test pour les Bleus.
Eh bien, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.